Elle est en place. C'est la poudre.
Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme.
I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne me suis pas conduite.
Qui appelle quand même l'admiration.
D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
Donald Trump.
Elle nous appartient, qu'elle est à nous aussi.
Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire d'autres films?
T'as du clito.
Les agences des hommes.
Boum.
Si je fais du cinéma, si je me lance, ce sera radical.
Opportunity.
Qui t'oriente.
The only thing that separates women of color from anyone else is opportunity.
J'ai l'impression qu'ils ont des sujets.
Je suis plus que jamais féministe.
Pour les hommes,
je ne suis pas une apparition, je suis une femme.
Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes actrices, réalisatrices, productrices. Parce que les femmes du cinéma sont à la pointe de la révolution féministe que nous vivons aujourd'hui. Parce que les représentations comptent. Parce que dans l'art aussi, les femmes ont des plafonds de verre à briser. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Céline Salette.
On n'est pas fini. On n'est pas déterminé, on n'est pas quelque chose. On a le droit d'être même rien.
This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off, or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs, and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Vous écoutez le cycle La Poudre aime le ciné. Céline Salette, vous êtes actrice, fondamentalement, viscéralement, actrice, depuis votre premier grand rôle dans Meurtrière de Patrick Grandperré en 2005. Vous avez tourné avec tous les plus grands réalisateurs français. Vous avez reçu le prix Romy Schneider en 2013. Vous avez marqué l'imaginaire du grand public avec des rôles intenses, souvent assez sombres. Celui de Clotilde, prostituée du début du XXe siècle dans La Polonie de Bertrand Bonello. Celui de l'éducatrice bagarreuse Géronimo chez Tony Gatliff. Celui de Louise Grappe, l'épouse d'un homme travesti en femme dans Nos années folles d'André Téchiné. Vous êtes bouleversante dans Mais vous êtes fou, le premier long métrage d'Audrey Diwan qui vient de sortir à l'heure où nous parlons. Vous êtes aussi une comédienne incontournable du théâtre, une icône de série. On se souvient de votre rôle dans Les Revenants et surtout de celui de la hyène dans Vernon Subutex, l'adaptation du livre de Virginie Despentes où vous crevez l'écran aux côtés notamment de Romain Duris. Alors depuis plusieurs jours, je dis autour de moi que je vais vous rencontrer, vous interviewer, et les gens s'exclament oh, « Céline Salette, je l'adore !» Il y a vraiment dans les yeux des gens qui disent votre nom, homme comme femme d'ailleurs, de l'admiration, mais de l'amour et même du désir. Et est-ce que c'est ça en fait, être actrice, chercher à susciter ce désir, cet amour-là?
Franchement, si c'était ça, bah, je serais pas là.
C'est vrai.
Ouais. En réalité, être acteur, bon, moi je peux vous dire d'où ça part de chez moi en tout cas, de cette petite fille qui a très très envie de satisfaire sa maman et de faire exactement ce qu'on lui dit de faire pour que tout se passe bien, pour que ce soit très cool et tout ça. Et je pense qu'en y réfléchissant, c'est pas tellement parce que son père à elle était tyrannique et qu'elle était un petit peu, je pense que c'est surtout, enfin, elle était un petit peu gentiment, très gentiment, je veux dire, c'est. Mais je pense que c'est surtout, je suis née comme ça, quoi. J'attendais qu'on me dise où me mettre. Et encore dans des périodes où j'étais en révolution pour analyser cette pathologie, hein, ce que moi j'appelle une pathologie de être acteur, c'est quoi, quoi. C'est-à-dire savoir qu'on est potentiellement tout, et donc qu'en même temps on n'est rien fondamentalement, puisqu'on se donne cette disponibilité. Et comme je réfléchis là-dessus, ben, je suis bien obligée de me dire tiens, c'est marrant, quand je sors du film d'André Téchiné, par exemple, c'était tellement une expérience géniale et tout, on s'est tellement aimé, je pleure en disant mais qui est-ce qui va me dire où je vais me mettre? Et je me dis à moi-même, ok, il y a une part de ça dans être acteur. Il y a quelqu'un qui te dit où te mettre, et c'est un truc qui vient depuis tout le temps.
C'est quoi, c'est l'envie d'avoir un mode d'emploi, en fait des instructions à suivre plutôt que d'y aller à l'instinct ou
Ouais, c'est aussi l'envie d'être aimée. Alors, peut-être ça procède de ce que vous dites, c'est-à-dire du susciter du désir, mais je crois que c'est plus végétal que ça, j'ai envie de dire. Je dis ça parce que je fais les arbres dehors, mais c'est plus... C'est comme une façon d'être au départ. Au contraire, presque... Ouais, je dirais végétal. Et après, comme quelqu'un met un désir sur vous, met une intention sur vous, un projet pour vous, alors du coup, vous le suivez. Parce que c'est aussi... dans vos cordes, quoi.
Il y a une forme de passivité aussi, ouais. D'attente dans le métier d'actrice. Il faut qu'on vous choisisse pour le rôle, il faut que le public réponde positivement à ce que vous proposez.
C'est ça, c'est ça.
Il y a un côté un peu objet, en fait. Quand vous parlez de végétal, c'est vrai
ça, je parle de végétal parce que je sens qu'en dépit de l'immobilité, parfois, je veux dire, j'ai une vie intérieure. J'ai d'une immobilité apparente, mais c'est vrai que... Ben oui, il y a un truc de l'ordre du trophée, quand même.
Ouais. Mais ce désir, en fait, finalement, ce que vous m'expliquez, ça me paraît logique. Vous en êtes détaché, au fond. Il vaut mieux en être détaché, parce que si on devient dingue, parce qu'on n'est pas désiré, parce qu'on n'obtient pas un rôle, parce qu'on n'est pas apprécié dans telle ou telle incarnation, oui, autant faire notre métier, quoi, c'est ça?
Oui, en fait, c'est surtout... Après, on subit trop si on est vraiment en prise avec ça. C'est-à-dire, c'est comme un... c'est comme une essence. C'est-à-dire, je suis née comme ça, je pense. En voulant faire plaisir. Et après, j'ai continué, mais comme j'ai réalisé des choses, j'ai compris des choses, aussi parce que ça m'a fait aller dans des situations qui étaient très complexes, où je ne pouvais pas faire autrement que de constater que mon fonctionnement était un peu caduque, quoi. Enfin, ou en tout cas, ne marchait pas dans tous les domaines de la vie, parce que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Du coup, je me suis un peu révolutionnée. Enfin, en tout cas, je me suis un peu interrogée. Et ça m'a permis énormément de choses. Parce que par ailleurs, c'est aussi un potentiel. C'est-à-dire savoir que tu peux être ça, ou ça, ou ça. Et aussi ça. Et te l'autoriser intérieurement. C'est-à-dire savoir que tu c'est vraiment OK si on te dit, tiens, bah, tu vas être prof de langue des signes. Ou tu vas faire du cheval, ou tu vas faire de la moto, ou tu vas faire... Genre, c'est des... Quand tu te donnes le droit d'avoir toutes ces capacités, tu les as, finalement. Mmh. Donc, c'est aussi hyper enrichissant. Mmh.
Tous les possibles ouverts, en
ouais,
fait.
Exactement. Mmh. C'est-à-dire que quand t'es acteur, tu sais que t'as toute l'âme humaine et que tu peux être clodo, mais aussi banquière d'affaires. Et après, ça demande un peu de travail. C'est vrai qu'il y a des déplacements à produire, quoi. Si je vais vers la hyène, alors il faut que je... Il faut que je muscle un peu mon autorité, ma violence intérieure, le plaisir que je peux en tirer, mon rapport à la domination. Tout ça, ça doit se muscler.
Donc la hyène, c'est une enquêtrice lesbienne assez violente, ouais. Hyper, hyper sexy et ouais. En moto ouais. dans Vernon Subutex. Ouais, c'est un rôle que vous incarnez avec vachement, vachement de justesse. Quoi.
Ouais. Mais oui,
d'ailleurs, vous êtes devenue une icône lesbienne, du coup.
Bah, je ne sais pas, si vous le dites. Mais... je sais pas, qu'est-ce qu'on disait ?
Sur le désir.
Ouais, ça, mais ce qui est beau, c'est d'arriver à en faire quelque chose, en fait. Ce qui est beau, c'est de le constater et de savoir ensuite quoi en faire, pour pas le subir, en fait.
Alors vous avez grandi à Arcachon. Mm. C'était comment de grandir à Arcachon ?
Ben, c'était bien et pas bien. J'ai grandi à Arcachon parce que mon papa qui travaillait à la SNCF a dit tiens on va se mettre au bord de la mer. C'était pas génial pour sa carrière, mais bon, il s'est dit tiens, c'est pas mal, il y a des pins, il y a le bassin, on va être bien. Et donc c'était une façon d'être un peu dans un bon environnement tout en n'étant pas tellement adapté à la situation, puisque quand même Arcachon c'est une ville très bourgeoise, de villégiature, d'aristocratie bordelaise, milieu dont on ne faisait pas partie, dont on n'a jamais fait partie, dont on fera la fin là. Du coup, dans l'enfance, c'était quand même vraiment très sympathique. Et puis après, au collège et tout ça, quand tu commences à être sensible à ton environnement extérieur ou en tout cas aux codes sociaux. Ben, alors après, tu n'as pas de Jean Levis, Arcachon, il y a Monoprix Le Marché ou Chipi Chevignon. Donc, ta chemise est ou à 500 balles ou à 2 francs. Quoi. Donc, en fait, il y a une espèce de bon.
Vous avez pris conscience de la fracture sociale qui pouvait exister entre ouais. La bourgeoisie.
Ça joue.
Ouais.
Ça joue un peu.
Et c'était une souffrance.
Bon, c'est pas des vraies souffrances, mais c'est des, ça fait des, ça fait des, c'est bien, ça fait des mouvements en fait. Et d'autres aussi, hein, je veux dire d'autres fractures qui sont incompressibles quoi. Par exemple, moi, jusqu'à 14 ans, j'avais pas de seins. J'étais pas très évoluée, j'étais beaucoup moins intéressante que toutes les filles qui avaient, qui étaient beaucoup plus matures que moi physiquement et tout ça. Donc, par exemple, ça, c'est un constat, quoi. Je veux dire, c'est un constat d'injustice qui n'est pas social, mais que je veux dire qu'on peut faire à l'âge que j'avais. Et donc, pour rattraper ça, j'ai vraiment essayé de faire mon intéressante. Ça, j'ai vraiment beaucoup essayé de faire ça.
Ça veut dire quoi faire son intéressante?
Ben, j'essaie de faire rigoler les gars, tu vois. Je faisais autre chose en fait. J'avais compris que physiquement mes atouts c'était pas ça. Je n'allais pas gagner là-dessus toute la période du collège en tout cas. Du coup, je travaillais sur d'autres trucs, genre faire rire. Donc je faisais des imitations, je faisais ça, d'autres trucs.
Vous l'avez rappelé, votre père travaillait à la SNCF. Je crois que votre maman aussi travaillait dans la gare. Elle tenait le relais H de la gare d'Arcachon.
Elle tenait pas le relais H. Alors, en fait, à Arcachon, non, elle a travaillé dans une maison de la presse. Et c'est après, quand on est venu habiter à Bordeaux, quand j'étais au lycée, qu'elle s'est mise au relais H. Elle n'était pas patronne du relais H, elle était employée du relais H. Et d'ailleurs, ses patrons se sont avérés pas très sympas. Et après, elle a travaillé à la bibliothèque SNCF. Et après, elle a arrêté, parce que ça l'a saoulé.
Bon, en tout cas, la SNCF, je crois même que vous avez aussi des...
Oui, ma tante a vendu des billets, mon tonton a conduit des trains. Ouais, je suis une enfant de la... Moi, c'est plus là d'où je viens, de la SNCF.
C'est une institution française quand même particulière, la SNCF. C'est aussi un lieu très symbolique, hein, quand on parle des revendications, des suppressions de postes, de fonctionnaires,
carrément,
etc.
La
perte des avantages sociaux, c'est vraiment très symbolique.
Ouais, énorme.
Qu'est-ce que ça vous a transmis en termes de conscience politique, de conscience de classe, d'appartenir à ce milieu-là?
Ben, j'avais pas tellement conscience au début, mais c'est vrai que ça a un peu bougé. Je crois que ça m'a transmis, en tout cas, dans ma famille, du côté de mon père, en tout cas, même, il y a une forme de très grande solidarité, très grande générosité, très grande conscience du collectif, ouais, de ce que c'est que faire groupe, faire corps, faire société. Et du coup, j'ai ça dans mon ADN, je pense, ouais.
L'appartenance à un groupe, à un collectif, quoi.
Ouais, le sens et la puissance du collectif, ouais, je pense.
On vous parlait comment quand vous étiez petite?
Je sais pas trop. Plutôt très bien. Enfin, on parlait vraiment bien.
Vous dites souvent que vos parents, ils n'avaient pas particulièrement d'attente, quoi, qu'ils ne projetaient pas quelque chose sur vous, tu seras médecin, tu seras je ne sais pas quoi.
Ouais, c'est vrai.
C'était libre, quoi.
C'est vrai. Mais c'est pas mal, hein, finalement, grandir comme ça sans devoir remplir une case ou sans devoir réaliser un projet. Moi-même, j'ai l'impression que j'étais assez vacante comme ça. Un peu, voilà. Et de cette vacance, pas de cette vacuité, mais de cette vacance, oui, de cet état un peu contemplatif, vraiment d'enfance dans lequel j'étais, je pense. Un monde assez intérieur. J'ai des souvenirs assez denses, mais de vie intérieure. Mais sans... Enfin voilà, comme dans l'enfance, quoi, sans but. Mais c'est ça qui est beau, non? Enfin, je trouve que c'est ça qui est beau.
Bah, cette vacance, quand vous la décrivez, je l'entends aussi comme une espèce de disponibilité, en fait. Comme une espèce de possibilité de tous les devenir dont vous parliez un peu tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Je me rappelle avoir été très vexée parce que j'étais un jour en vacances avec une amie dans le Limousin. Je devais avoir 12 ans, peut-être 11 ans. Et c'est pareil, j'étais dans une espèce de truc un peu informe en devenir et tout ça. Je me rappelle, elle avait tiré les cartes à ma... Il y avait une vieille dame qui faisait des tartes myrtilles et qu'on disait un peu une sorcière voyante, tout ça, elle tirait les cartes. au milieu des bois. Et donc, on est allé la voir. Elle avait tiré les cartes à ma copine. Elle avait dit, OK, tu vas avoir un gars. T'sais. Elle avait peut-être un... C'était Charlotte. Elle avait peut-être un ou deux ans de plus que moi. Et moi, vraiment, me tirer les cartes, c'était ridicule, il ne se passait rien. J'étais le 8 de cœur. Autant dire, même pas une figure, j'ai même pas figure humaine. J'étais donc un 8. En même temps, quand j'y pense, c'est le cycle de l'infini, donc ce n'est pas finalement si inintéressant. J'étais donc un 8 et il ne se passait rien dans ma vie. Elle avait dit non, bah, je ne vois rien. Merci, au revoir. Et ça m'a terriblement vexée. Je m'étais dit, ouais, hyper vexée. Je m'étais dit, OK, bon, je n'ai aucun avenir. Et intérieurement, je pense que je m'étais dit, ouais, enfin, bon, je ferai ce que je veux. Hein. Ouais. Si j'ai envie d'avoir un avenir, j'en ai rien.
Ou pas de déterminisme, ou pas de chemin tracé d'avance, quoi. C'est aussi une chouette liberté, quoi.
Ouais, ouais. Ben, ça, c'était fascinant. Moi, ça, c'est vraiment des choses que j'ai découvertes dans la vie. Alors là, pour le coup, rien ne me prédestinait à rien, ça, on peut le dire. Et rien n'a été vraiment difficile. Je peux pas dire ça non plus. Je peux pas dire que j'ai construit ce que j'étais à la force de je sais pas quoi, non. Je crois que la providence m'a guidée d'une certaine façon. Et puis, ces choses intérieures, ces repères intérieurs, enfin, en tout cas, ces sensations intérieures, qui, une fois senties, j'ai jamais voulu les quitter. Comme par exemple, les premières fois que j'ai joué sur scène. C'est-à-dire, ça a été des tellement grandes sensations que j'ai jamais... Qu'après, j'ai voulu continuer ça. J'ai jamais lâché ces trucs qui étaient si forts pour moi intérieurement.
Ouais. Vous en parlez aussi souvent de cette découverte du théâtre à 14 ans. C'est dans l'atelier d'ailleurs d'une femme dont j'ai pas noté. C'est Ariane Mnouchkine, c'est ça ?
Alors, Ariane Mnouchkine, c'est une immense metteur en scène, voilà. Qui est dans le Bois de Vincennes et qui a fait la cartoucherie Le Tête du Soleil.
Et c'est avec elle que vous avez commencé le théâtre ?
En fait, non, mais tous les gens avec qui j'ai travaillé au début, c'était des gens qui venaient d'elle. C'est-à-dire, c'était des gens qui étaient inspirés d'elle, inspirés de son théâtre.
De travail, quoi.
Ouais, ouais, exactement. De ses écrits, de sa façon de son esthétique, de sa façon d'aborder le théâtre. Et à côté de Bordeaux, à Talence, il y avait un hangar avec une troupe de gens qui avaient 30 ans. Moi, à l'époque, j'avais donc 14, je venais de rentrer en seconde. Qui étaient des semi-professionnels, c'est-à-dire, ils commençaient à monter une troupe. Ils étaient franchement très brillants. Et ils avaient un talent dingue, ils s'appelaient le Théâtre des Égrégores. Et j'ai commencé avec eux et je faisais 3 soirs par semaine jusqu'à minuit du théâtre avec eux. Et je me rappelle que quand je poussais la porte de ce hangar, il y avait entre la rampe de lumière et l'ancienne et le rideau rouge qu'ils avaient mis au fond, cette espèce d'espace dans lequel tout était possible et qui est devenu mon monde en fait.
Mais qu'est-ce qui a fait que, enfin, vous aviez 14 ans, vous n'aviez pas d'expérience, vous me décrivez une troupe de personnes plutôt expérimentées. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu votre place tout de suite dans
Alors,
dans
moi, j'ai pas eu ma place dans la troupe, mais c'était des ateliers. Ils faisaient des spectacles et ils faisaient des ateliers pour les gens, pour les amateurs, en fait.
C'est une transmission, en fait.
Ouais, voilà. Puis pour aussi gagner leur vie. C'est-à-dire, ça leur permettait de, à la fois, transmettre, à la fois, pratiquer et à la fois, gagner un peu d'argent.
Donc, c'était plus une activité, en fait.
Ah oui, c'était une activité extrascolaire. Extrascolaire. Je n'ai pas arrivé à le dire, mais...
Extrascolaire.
Ouais, extrascolaire.
C'est pas facile à dire.
Et aussi, j'en faisais avec le lycée. Donc, en fait, c'était comme... j'étais un peu boulimique de ça.
Et c'est quoi la sensation qui vous rendait si addict
Ben, après, c'est exactement comme quand tu es dans une forêt. Tu te dis, ah, tiens, il y a encore là, encore là, encore là. J'ai l'impression de me défricher moi-même. C'est-à-dire, c'est comme si aussi, après, m'être totalement désintéressée de moi... D'un coup, je découvrais des capacités. Je sais pas comment vous dire. C'est un peu comme si, je découvrais des mondes en fait. Et puis j'avais très soif. En fait, c'est comme comme si j'avais toujours voulu être une enfant sympa et tout ça. Et puis. Comme si d'un coup je rencontrais que je réalisais que je pouvais aussi m'approcher d'Antigone, je pouvais aussi m'approcher de je sais pas comment vous dire de un gnome, je pouvais aussi m'approcher de toutes sortes de réalités, de choses en moi. Par exemple, je me suis jamais sentie très fille, donc c'était comme une exploration géniale d'un coup.
J'ai des rôles d'hommes, hein. J'ai lu beaucoup. Début, on vous confiait souvent des rôles masculins. D'ailleurs, c'est quelque chose qui, dans votre carrière, est revenu régulièrement.
Ouais, bien sûr.
Vous avez souvent des personnages un peu androgynes. On parlait de la hyène tout à l'heure. Ça faisait partie aussi des choses qui vous ont attiré dans le théâtre.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, d'un coup, il n'y a pas de définition. Ça n'est pas fini. On n'est pas fini. On n'est pas déterminé, on n'est pas quelque chose. On a le droit d'être même rien. On a le droit même d'être une huître, on a le droit d'être tout, en fait. On a le droit d'être rien et tout. On a le droit d'être un arbre, une branche. On a le droit de se brancher avec son corps et de l'écouter. On a un temps pour dire des mots qui ne sont pas à nous, mais qui nous font grandir, qui nous élèvent. C'est assez fabuleux, ce genre de découverte. En vrai, j'ai tellement de chance.
Alors, tombe sur le...
C'est trop beau, parce que c'est un apprentissage qui n'est pas scolaire. C'est difficile d'apprendre même la littérature assis sur une table. Enfin, je dirais assis devant une table, sur une chaise. En vrai, la littérature, c'est des mots, des sensations, de l'âme. Je ne comprenais pas la lecture, moi, par exemple. Je n'aimais pas trop lire. Juste le premier jour, le premier livre qui m'a fait pleurer, j'ai compris. Je me suis dit, ah mon Dieu, mais c'est ça. C'est ça que doit faire un livre.
C'était quoi, comme livre ?
C'était Mon bel oranger. Mais encore aujourd'hui, je reste avec les livres comme... Je ne sais pas si je vais les rencontrer, ou je ne sais pas si je vais rencontrer leur auteur, ou je ne sais pas si ça va me parler, ou je ne sais pas si je vais aimer ces personnes. Je suis très... Je trouve que dans la vie, tout est rencontre. Et qu'on a trop de chance d'essayer de s'approcher soi-même, de se rencontrer soi-même, et de comme ça, approcher les autres aussi.
Vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue ?
Alors, je suis complètement... en devenir, je dirais. Parce que... Ben, en même temps, mon postulat de base, enfin, par quoi j'ai commencé, c'était un peu ça. Hein, c'était un peu ce qu'on pourrait dire du féminin, quoi. C'est-à-dire la posture de passivité, d'attente. Mais en même temps, je crois pas vraiment. Je sais pas si c'est plus féminin que masculin. Je crois que c'est juste...
On s'est projeté comme féminin, mais évidemment...
Ouais,
voilà,
je pense pas que ce soit...
C'est pas forcément
ouais.
essentiel.
Non, ouais. ouais. Et de la même manière, quand j'étais petite, tous ces trucs qu'on disait féminins, moi, ça m'intéressait pas tellement. Tu vois. Assez vite, je me suis dit, bon, ben... Je suis pas obligée d'être une créature poétique fragile. Je suis pas obligée d'être... Ouais. J'ai le droit de crier. C'est pas très élégant, mais je m'en fous. Enfin, c'est aussi ça. C'est aussi ça, le théâtre. Ouais. C'est aussi un endroit où on peut... s'explorer vocalement, c'est où les endroits dans la vie où on peut crier fort, quoi. Je veux dire, parler fort, crier, hurler. Et quand il y a un endroit où c'est OK, et où on fait ça à la fois pour s'amuser, c'est vraiment, c'est extraordinaire. C'est hyper important de s'explorer,
Mais je pense que c'est un peu ça qui vous caractérise en tant qu'actrice, en vous écoutant parler. Même on retombe sur ce 8, sur cette infinité des possibles, etc. Enfin, je trouve que même quand vous incarnez des personnages qui sont fondamentalement féminins, vous avez incarné une prostituée, une mère séparée de ses enfants, enfin, on est vraiment dans les archétypes des femmes telles qu'on a parlé dans toute l'histoire de l'art. Mais vous avez une façon de le faire. Je trouve qu'il est justement pas archétypal dans votre voix, par exemple. Vous n'avez pas du tout une voix à la Fanny Ardant, qui se sort comme ça. Vous avez une voix qui est un peu gouailleuse ou un peu... même dans vos postures.
Ouais.
Enfin, ouais. Je trouve que vous avez au contraire justement une très très grande liberté à incarner la féminité, et c'est certainement ça qu'on recherche chez vous.
Je ne sais pas si j'incarne la féminité, parce que je pense que... Par exemple, moi, je vois surtout ce que je subis jusque-là. Par exemple, quand je me vois maintenant, je sais que moi, par exemple, une des grandes problématiques de ma vie, ça a été la question de la dépendance. Pas tellement la dépendance à des produits, mais la question de la dépendance affective. Et je vois en miroir, parce que comme acteur, t'es ton propre outil, tu vois bien que ton parcours, c'est comme un miroir. Finalement, est venu ce que t'as attiré, ce que t'as projeté et qui t'a été renvoyé. Donc, il y a beaucoup plus la question de la dépendance en creux dans tous les films, que quoi que ce soit d'autre. Et à part ça, je me tiens pas très droite, et ça peut être mieux. Et ma voix, j'ai pas tellement travaillé ma voix, mais bon, ça, c'est un autre dossier. Je trouve que c'est comme se regarder. On peut pas tellement s'écouter quand on joue, parce que sinon, c'est faux. En vrai, ce qui est bon, c'est quand on est traversé par quelque chose. Donc, forcément, quand on est traversé, on maîtrise pas. On n'est pas là en train de se dire. On n'est pas là en train de se placer. Au contraire, on est placé. Enfin, on est...
C'est vraiment ce qui ressort de vous, en fait. Et je pense que c'est certainement pour ça que les gens ont une relation tellement forte émotionnellement à vous en tant qu'actrice. C'est que vous proposez vraiment à chaque fois quelque chose de vraiment, enfin, je sais pas comment dire, spontané et unique quand vous incarnez un personnage. On retombe jamais, en fait, sur un cliché. C'est ça que je trouve vraiment vraiment puissant et intelligent en fait dans votre jeu.
C'est gentil. Et moi, je dirais que c'est surtout lié aux expériences, parce qu'en réalité, si on essaye de pas tricher avec ce que c'est que jouer, on n'a jamais les mêmes partenaires, jamais dans les mêmes lieux, on n'est jamais dans le même présent, ni dans les mêmes histoires. Donc, sans vouloir faire quelque chose de différent, à chaque fois, c'est différent en fait. C'est un autre moment de vie et nous-mêmes, on grandit dans les interstices.
This episode is brought to you by Rakuten. If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of the hunt. But are you getting the thrill of the best deals? Rakuten shoppers do. They get the brands they love with the most savings and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Samsung, Expedia, and Sephora. And even stack sales on top of cash back. It's easy to use, and you get your cash back through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app and never miss a deal. Or go to Rakuten.com to start getting the most bang for your buck. That's Rakuten.
Alors, quand on suit un peu votre parcours, votre carrière, on se rend compte qu'à 19 ans, il y a une rencontre qui change vraiment votre histoire, celle du metteur en scène de théâtre Laurent Lafargue. Donc, vous le rencontrez dans le cadre de ses ateliers de théâtre. Il vous offre vos premiers rôles, notamment celui de Desdemone dans Othello. Il vous pousse à vous inscrire au conservatoire. Il viendra après votre compagnon, une père de votre fille. Alors, moi, quand je lis cette histoire-là, j'ai un mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot Pygmalion.
Oui, bien sûr.
C'est pas un mot super féministe. Alors vous en pensez quoi de ce mot-là ?
J'en pense que... C'est drôle parce que quand lui m'a vu jouer pour la première fois, je jouais cette histoire, je jouais la statue dans Pygmalion.
C'est vrai, c'est marrant ça.
Ouais, c'est dingue. Parce qu'il y avait des élèves de maîtrise en fac d'art du spectacle à Bordeaux qui avaient mis en scène cette histoire. Et donc c'était comme une pantomime, je jouais une espèce de personnage un peu muet comme ça, très gracieux et modelé par Pygmalion. Donc, et c'est vrai, qu'est-ce que je pense de ça? Je pense que c'est la continuité de tout ce dans quoi j'ai grandi, c'est-à-dire j'étais très heureuse toute cette période-là de réaliser la vision de cet homme, puisque c'était de ça dont il s'agissait. Puisque lui m'a dit, il faut que tu fasses du cinéma, et que à l'époque, il est toujours 11 ans plus que moi d'ailleurs, mais j'étais quelqu'un qui voulait qu'on réalisait les visions des autres. Et qu'est-ce que je pense de ça? Je pense que franchement c'était puissant, ça m'a amené à prolonger ce parcours de façon dingue, ça m'a amené à rencontrer le cinéma qu'est-ce ce média incroyable, poursuivre ses aventures dans d'autres sur d'autres chemins, quoi. Les mêmes aventures intérieures, mais dans d'autres circonstances.
Moi, j'ai l'impression aussi qu'à travers lui, il y a peut-être la découverte d'un monde. Enfin, le milieu dans lequel vous avez grandi, vous l'avez dit, c'est pas un milieu forcément super intellectuel. C'est pas un milieu où on doit décrypter Godard en famille au dîner du dimanche soir. Et lui, pour le coup, il incarne au contraire quelque chose de très très intellectuel. Enfin,
pas tellement en réalité, parce qu'il est aussi, il est aussi issu d'un milieu très populaire et il s'est construit beaucoup avec l'éducation nationale et ce qu'il a gratté tout seul. Donc
mais est-ce qu'il vous a pas aussi un peu ouvert un monde, enfin donné envie, quand vous dites que vous découvrez le cinéma grâce à lui, vous avez, enfin, est-ce que c'était pas aussi la possibilité d'aller de sauter dans ce wagon-là avec, parce qu'il avait plus d'expérience que vous?
Ouais, bien sûr. De toute façon, quand il m'a engagée, j'avais 18 ans pour jouer Desdemone dans Othello. J'étais que avec lui et toute sa bande. Ils avaient 30 ans. Ils avaient tous fait le Conservatoire National à Paris. Et moi, je venais de la fac, j'étais en fac. J'avais pas tellement l'ambition d'être une actrice de cinéma. Enfin, je veux dire, ça ne m'intéressait plus, je m'en foutais. Enfin, c'était au-delà de mon champ de vision. Ça n'était pas dans mon champ de vision, en fait. Et c'est vrai que lui et eux, ils m'ont dit, il faut faire le Conservatoire, ce serait bien.
Ils vous ont un peu donné le mode d'emploi, en fait, encore une fois, j'ai l'impression.
Ouais, ils m'ont aidé à grandir. Ils m'ont aidé à grandir beaucoup. Et lui, beaucoup, c'est vrai. Et après, nos chemins se sont séparés. Mais encore une fois, c'était beaucoup lié au fait que j'étais dans cet endroit de grande dépendance affective et qu'à un moment, cet endroit n'était plus tenable, en fait. Et à partir de là, j'ai beaucoup appris parce que j'ai compris que j'étais moi, mais je pouvais être encore plus moi. Et ça, c'était vraiment, vraiment le début d'un truc très exaltant, encore plus exaltant, je dirais.
Il y a un rôle en particulier dont je voudrais qu'on parle, parce que c'est votre premier grand rôle donc dans Meurtrière de Patrick Grandpéret, qui nous a d'ailleurs quitté récemment. Et en fait, c'est drôle parce que moi, à l'époque, c'était la première fois que j'étais journaliste et je venais juste de commencer.
Je me rappelle très bien.
Vous vous rappelez ?
Mais bien sûr.
On s'était rencontrés à Cannes à l'époque.
Exactement.
Avec Andre Kojak, qui était votre...
Exactement. Et avec aussi Laurent,
et
qui était
Laurent.
Le...
Ouais. Ouais, et je me rappelle que j'avais vu ce film, et moi voilà, j'étais toute débutante, c'était la première fois que je couvrais le Festival de Cannes, c'était pour le site de Elle, et le film m'avait vachement marqué. C'est un espèce de Thelma et Louise contemporain, complètement un espèce de road trip avec de adolescentes un peu paumées qui en viennent à tuer un homme. C'est un sacré cadeau de commencer avec un rôle comme ça. Enfin, c'est aussi hyper déterminant, quoi. On a fait de vous Jenna Rollins dans votre premier rôle.
C'était dément, ouais, les personnages étaient déments, fous. Énorme cadeau, parce que le plus dur en vrai c'est d'entrer. Le plus dur c'est que quelqu'un donne un rôle. J'avais déjà passé des castings que j'avais ratés minablement parce que faut arriver à se donner l'autorisation d'être bon. La plupart du temps j'arrivais en bredouillant, en faisant très intimidée, ou alors j'arrivais, la directrice du casting me disait, mais enfin, c'est pas possible, comment t'es habillée, reviens, va te changer, reviens, enfin, je sais pas.
Vous essayiez pas, en fait, vous vouliez arriver en étant...
Ben, non, mais moi, je pensais pas qu'il fallait s'habiller de façon spéciale, enfin, je veux dire, j'en étais pas là. Pour moi, c'était pas ça jouer. Enfin, genre, c'était pas... Bon, j'avais un peu des treillis et des hauts bizarres, mais...
un peu grunge, genre,
j'étais un peu grunge. Mais en vrai, j'avais aucun regard sur moi, c'est vrai. Mais un jour, je me suis dit, bon, mais en fait, ça va. Je me rappelle très bien de m'être donné l'autorisation avant d'aller à un casting. Et en fait, je l'ai eu. Mais très simplement, parce que je me suis dit, mais en fait, ça va, je peux très bien le faire, je sais le faire, c'est bon, c'est pas compliqué, en fait. J'étais très détendue. Le type ne m'a pas pris, parce qu'il a pris quand même quelqu'un qui était plus connu et tout ça, pour monter son film. Mais j'avais prolongé les essais, il avait voulu me prendre, ça n'avait pas marché avec la prod, mais... Je savais que j'avais intérieurement gagné quelque chose. C'est-à-dire, je m'étais dit, c'est bon, et en fait, c'était bon. Avec ce même calme, cette même certitude, ce même accord qu'on se donne à soi-même, qui avait fait que ça avait marché. Et je savais que ça pouvait se reproduire. Et après, comme j'étais au conservatoire, il y a eu ce casting sauvage. On a rencontré Grandpéret, et puis Sylvie Piala, qui produisait ses premiers films, qui est la veuve de Maurice Piala. Qui a monté les films du Verso après sa boîte de production, aussi une femme qui s'est emparée de sa vie et de son destin pour construire une œuvre. Et femme très forte qui, voulait prendre Sarah Forestier, qui à l'époque avait fait des trucs et tout ça, et qui a dit à Patrick, ok, parce que son héritage aussi de Maurice, elle savait que, voilà, pour faire un film, il n'y a pas forcément besoin d'un nom, même si elle aurait pas préféré, elle était d'accord. Mais c'est vrai que c'est une grande chance de commencer.
Et il y a un autre rôle qui a beaucoup marqué votre destin, c'est celui donc de la Polonide. Alors je vais vous faire un aveu. Moi, je n'avais pas vu ce film, en fait. Et je l'ai regardé cette semaine pour préparer l'interview. Ouais. Franchement, je l'ai trouvé horrible. Enfin, ouais. J'étais là écœurée à pester contre Bertrand Bonello pendant tout le long, à être là genre, mais quelle violence, quel machisme, quel male gaze, quelle horreur. Vraiment, je vous jure, j'ai eu des moments où j'ai regardé en accéléré, quoi. Il y a une violence inouïe dans le portrait de ce bordel, mais que je trouve une violence qui est finalement pas politique, en fait. Elle est un peu gratuite. Moi, j'ai vu un espèce de male gaze. Je vais pas vous faire dire du mal, hein, de Bertrand Bonello.
Moi, je dirais pas. Hein.
Mais cette notion de male gaze, donc c'est une idée de regard masculin qui domine malheureusement très fortement la production cinématographique mondiale. Est-ce que vous l'avez déjà ressenti ? Vous avez beaucoup tourné avec des hommes réalisateurs, hein, ouais. La plupart d'ailleurs des films, vous avez été dirigé par des hommes. Est-ce que cette notion de male gaze, elle vous parle ? Est-ce que vous la trouvez abusive ? Est-ce que cette idée que voilà, le regard masculin, il se ressent à travers la caméra et il passe à travers l'écran jusqu'au spectateur.
Bon, oui, certainement. Moi, je pense que ça existe, évidemment. Je pense que le visionnaire, c'est-à-dire celui qui fait l'œuvre, il impose son regard, c'est évident. C'est marrant ce que vous dites, parce que nous, sur le film, on était une bande de 12 meufs et on était, mais... On était au sommet de notre vie, carrément.
Il y a un casting génial, peut-être avec Adèle Haenel, Avia Herzi, ouais. Il n'y a que des meufs incroyables.
Nous, en vrai, on a passé 2 mois à être au sommet de notre vie. On était une bande de meufs, on se tapait des barres d'heures tout le temps. On était vraiment, vraiment en train de vivre des choses de l'ordre de la sororité à fond la caisse.
Ça se voit d'ailleurs dans le film. Il y a des moments où on se demande si c'est joué ou pas. D'ailleurs, on vous voit rire, on vous voit des trucs qui sont très naturels, d'ailleurs, qui font presque un peu anachronique. Dans le... Mais je sais pas. Fin...
Ouais, mais je comprends. Mais je pense que. Moi, je pense que Bertrand, il a voulu faire. Moi, je pense que Bertrand, il a voulu faire un film profondément féminin. Profondément, presque féministe.
Féminin, mais pas féministe.
En tout cas, il y avait dans ce portrait de femme, au pluriel, je pense la volonté de parler de... Si, la soumission au désir des hommes, en fait, si elles sont soumises à leur maquerelle qui les tient financièrement, tout ça, c'est raconté quand même. Tout le social est raconté. Elles sont en prise avec ça, cette prison financière. Et à l'intérieur de ça, elles sont une bande de sœurs.
Mais je pense
avec leur puissance, avec leur... Mais je comprends qu'on
en fait,
puisse le voir autrement.
C'est l'impossibilité de s'échapper, je pense. Parce qu'en vous entendant le dire, effectivement, je suis bien obligée d'admettre qu'en effet, il y a une dénonciation de la réalité sociale, qu'on voit la jeune fille qui débarque de la campagne à 15 ans, qui n'a pas d'autre issue, qui se retrouve prisonnière de ce truc, mais... Je pense que c'est l'impossibilité de s'échapper.
Et la dette, en fait. Ouais. Mais il y a un truc qui est aussi profondément anti-libéral dans le film, moi, je trouve.
Ouais.
Moi, je trouve pas qu'il est si apolitique que ça. Parce qu'au contraire, c'est un film qui parle que de la dette. Les filles, elles sont endettées jusqu'au cou. C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas sortir. Il y a une espèce de piège. Et en même temps, elles sont droguées, amoureuses. Elles ont envie de s'échapper. Moi, je trouve que c'est un film qui raconte le piège, mais... Évidemment, c'est un film qui est aussi enrobé de poudre. C'est-à-dire, il y a beaucoup de... La violence est sourde, elle est aussi dans de la soie, elle est aussi troublante parfois, comme peut l'être certaines zones de la sexualité. Il y a de l'ambiguïté dans le film. Il n'y a pas de manichéisme, mais j'aime trop.
Mais vous dites souvent que c'est un rôle qui vous a beaucoup marqué.
Mais je sais d'où ça vient. C'est-à-dire, je sais que l'expérience, je sais pas comment vous dire. C'est-à-dire quand on apprend que Quentin Tarantino est un sale harceleur j'en sais rien moi. Vous voyez ce que je veux dire ?
Bien sûr.
Moi, je sais ce que j'ai vécu
avec
Bertrand.
Pas de ça.
Ouais.
Il y avait
moi,
pas
je
de
sais
ça.
Ce que j'ai vécu avec Bertrand, qui est un homme qui est fou des femmes.
Non, mais je pense
fou
que c'est
des actrices,
préjugés, peut-être un peu.
Non, je ne sais
un
pas.
Un homme qui filme des corps nus de femmes et qui parle de prostitution. Je pense que je le prive de légitimité à aborder ce sujet d'avance pour des raisons peut-être un peu idéologiques. En tout cas, je ne sais pas si ça vient de votre voix ou de votre visage, mais clairement, ce qui vous fait cartonner comme comédienne, c'est quelque chose de l'ordre de l'obscurité, de l'ordre parfois même de la violence ou de la douleur. Enfin, vous incarnez vraiment souvent des rôles de femmes avec des destins plus que tragiques.
J'en peux plus.
Ah, vous n'en pouvez plus ?
Non.
C'est lourd ?
Ouais, mais ça va s'arrêter. Enfin, ça ne va pas s'arrêter ça, mais ça va évoluer, en tout cas.
Mais moi, je me demande même comment on arrive à incarner. Alors, c'est vraiment une question de profane, hein, par excellence. Mais vous dites souvent que vous avez eu une vie sans tragédie. Alors, du coup, la noirceur, on va la chercher où ?
Ben, c'est vrai sans être vrai, en fait. Parce que, non, à ma façon, je me suis mis dans mon lot d'épreuves. Peut-être que... Oui, bien sûr, c'est avant la thérapie qu'il n'y a pas de tragédie. Il n'y a pas de raison d'aller en thérapie jusqu'à ce qu'il y en ait une. Très urgente. Très urgente.
C'est ça qui vous a fait changer, cette révolution dont vous parliez tout à l'heure.
C'est aussi passé par la thérapie, mais c'est passé par plein d'autres trucs. Hein. Et j'ai mis plein de trucs dans ma boîte à outils. Plein. J'ai cherché partout comme une folle. Ça m'a obsédée. Parce que, en vrai, un jour, j'ai compris que j'étais responsable de ce que je vivais. C'est-à-dire que tout ce que je vivais était le prolongement de moi. Et donc, j'ai compris que j'étais mon propre problème. Et donc, que je pouvais éventuellement être ma solution. Donc, j'ai arrêté de m'occuper des autres. C'est-à-dire de vouloir m'occuper d'autres choses que de moi. Parce que j'ai compris que j'étais vraiment, gravement mon problème. Et que donc... J'avais un mode de fonctionnement qui faisait que ben, si je faisais rien, ben, ça allait continuer sous d'autres formes, avec d'autres visages, avec d'autres, dans d'autres lieux, peu importe, en fait. Mais il n'y avait pas de fuite possible, il n'y avait pas d'échappée possible. C'est-à-dire, soit il fallait que je me retourne sur moi-même, que je regarde comment c'était foutu et que je change les trucs. C'est comme d'un coup, tu te rends compte que ouais, c'est bien, c'est bricolé jusqu'à présent, c'est sympa, c'est charmant. Et puis d'un coup, tu dis, ok, tout va se casser la gueule. Là, vraiment, j'y vais... tout creuser, mais vraiment, je vais déterrer tous les vieux greniers dessous de ça, faire des fondations solides et essayer de construire quelque chose. Comme si, à un moment, je disais, j'ai l'impression d'avoir été propulsée comme ça, d'être sortie du geyser de la baleine. Au moment, t'es en haut, tu fais hey, « c'est hyper sympa la vie et tout, c'est vraiment génial !» Et d'un coup, ça retombe et tu te retrouves à l'intérieur de la baleine et tu fais « Ah, il fait noir !»«
Mes amis
!»« Il n'y a personne, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, ta vie commence. C'est là que ça commence vraiment, parce qu'avant, t'es un peu... C'est ce que dit Dépente, quand elle dit « à 20 ans, tu te rends pas compte ». Il y a des fois des jeunes qui me disent « oui, cette nostalgie de Dépente, d'Envernon, ça, en fait, il n'y a pas de nostalgie, c'est juste l'âge, quoi. » À un moment, bah, t'es plus sur une lancée. T'es plus sur... T'es plus à grande vitesse, en train de surfer sur le truc, en train de faire « hey, c'est cool !» Ce avec quoi je viens me propulse jusque-là, non, à un moment, ça s'arrête. Il n'y a plus d'essence. Et faut faire autrement. En fait, faut comprendre et éventuellement transformer. Mais moi, j'ai de la chance que je me suis bien foutue dans la merde. Il y a des gens qui survivent. Moi, franchement, je pouvais pas continuer comme ça. C'est ça qui était bien. C'est-à-dire que je me suis trompée, mais fort, 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 quoi. Très, 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 très fort. Et donc, je pouvais pas rater le truc, quoi. Je pouvais me dire non, mais ça va aller encore un peu. Alors, vraiment, non, là, ça pouvait vraiment, vraiment, vraiment plus du tout aller. C'était catastrophique.
Sur le plan personnel et professionnel, c'est global
ce Non, que... pas tellement sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel, c'était une cata. Une cata. Et sincèrement, je ne blâme personne, j'étais victime de rien, sauf de moi-même. Mais sincèrement, vraiment, je n'ai pas été avec le dos de la cuillère. Et ça m'a été très utile parce que, bah, comme toutes les épreuves dans la vie, enfin comme tous les... Le jour où j'ai compris que... j'étais en mesure de transformer ma vie, même si ça me paraissait très difficile, puisque j'étais moi-même mon propre territoire de travail, ben, j'ai commencé à aller mieux. Mais alors là, ça m'a obsédée pendant un bon moment. C'était un peu tous les jours, tout le temps. Et quand ma psy me disait « Non, vous ne changerez jamais », je pleurais. Je faisais « Non, je veux changer. Ah, c'est... Pourquoi je ne changerai pas si je veux changer ?» Et en vrai, maintenant, je sais qu'on peut changer.
Quand vous parlez du ventre de la baleine, moi, ça me fait penser à la dépression. C'est quelque chose que vous avez connu ?
Ben, moi, je n'appelais pas ça comme ça. Puis je ne peux pas dire... j'avais une telle, je pense, volonté de ne pas avoir conscience de ça que bon, c'était sûrement un truc qui ressemblait à une dépression. Mais bon... enfin, en tout cas, j'ai attaqué. Mmh. J'ai attaqué la carie. Et puis... peu importe comment ça se nomme, en fait. Oui, sûrement. Je crois pas que ce... Je sais pas, j'ai l'impression qu'une dépression, c'est pas circonstanciel. Moi, je m'étais foutu des circonstances, quand même. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais.
Une dépression, ça peut tomber un peu comme ça. Hop, on sait pas trop. Là, moi, non, je savais. Enfin,
ouais.
J'avais des...
Il y avait des causes et des effets, quoi.
Oui, exactement.
Mm.
Et du coup, c'était pas mal. Mais c'était laborieux.
Bah, bravo. Mmh. Bravo de l'avoir fait.
Et alors, genre, un truc que je peux vous dire qui est génial, c'est que quand on travaille sur soi, aujourd'hui, c'est un truc que je transmets à ma fille, mais à fond la caisse. C'est-à-dire, je lui dis qu'il n'y a rien à faire avec. N'essaie pas de changer. Tu ne changeras pas les autres. Change-toi, toi. Et à tous les niveaux. C'est-à-dire que moi, bon, c'est vraiment un truc que j'ai fait à tous les niveaux écologiquement de moi. C'est-à-dire, je me suis mis à me dire, OK, comment je peux aimer faire le ménage ? Comment je peux me passionner pour faire mes papiers ? Comment je peux. Je veux dire, vraiment, j'ai décidé de tout refaire, quoi. Tout repenser. Et donc, j'ai fait des études de ménage, tout ça. Je peux vous dire, à un moment, ça m'a passionnée.
C'est pas vrai.
Si, parce que la vie, c'est aussi la vie matérielle. c'est pas la vie. La vie, c'est pas, on est acteur, c'est bien, mais on s'en fout. Quoi. En fait, en vrai, la vraie vie, c'est quand comment aimer faire son linge, quoi. C'est ça, la vie. Enfin, je veux dire, en dehors des moments où on s'échappe et on est content, la vie, c'est quand même... qu'est-ce qu'on mange ?
Ouais, c'est de l'intendance.
Comment on mange ?
Gestion,
comment je peux aimer passer le balai ? Je veux dire, pas le balai, mais c'est un tribut à ma grand-mère. Comment je peux aimer faire le ménage, par exemple ? Parce que, par exemple, c'est des trucs que j'ai vu ma grand-mère, ma mère subir toute leur vie. Et, évidemment, quand t'es avec un type, tu peux toujours dire « Connard, t'as pas passé l'aspirateur ?» Mais quand t'es seule, bah, tu peux te retourner sur personne et dire « Dis donc, qui n'a pas passé l'aspirateur ?
Bah c'est moi.
Bah c'est moi, voilà. Donc alors, en fait, ce qui est bien avec l'autonomie, ce qui est bien avec la solitude, c'est qu'elle oblige à tout considérer comme voilà, l'autre ne peut pas être une partie de toi qui te manque. Si tu n'aimes pas faire le ménage, bah, l'autre ne va pas aimer faire le ménage pour toi. C'est pas, je veux dire, moi, je ne dis pas en tant que femme, c'est mon travail de faire le ménage, mais juste, bah, en fait, c'est comme ça, je ne sais pas comment dire. Si t'as envie d'être une personne propre, ben, faut bien aimer faire un peu le ménage chez toi. Qui que tu sois, homme ou femme. Je veux dire, il y a des types qui vivent dans des taudis et des femmes qui vivent dans des trucs dégueulasses. C'est pas la question. La question, c'est comment aimer faire ça.
C'est hyper intéressant. Non, mais j'adore. C'est une espèce de proposition pour se libérer de la charge mentale en la transformant en joie.
Il faut kiffer.
J'adore.
Ouais.
J'adore.
Moi, maintenant, dans mes petits... Par exemple, quand je fais mes papiers, je fais des petits... je les entoure, par exemple, les années de bulletin de salaire. Maintenant, je mets un petit papier avec une photo et puis je les mets dans un petit paquet comme japonais. Puis
ah, c'est Marie Kondo à mort, quoi.
Ouais, à mort. Là, par exemple, j'ai étudié. C'est pour ça que je dis Marie Kondo et tout. Ouais, mais elle dit pas des conneries, franchement.
Ah mais non, mais c'est génial. Moi, ça m'aide énormément.
J'avais d'être minimaliste sur mes vêtements. D'ailleurs, je le suis de plus en plus, comme j'ai réduit mon espace. Maintenant, mon dressing fait 1m50, ce qui fait halluciner tous les gens qui viennent, enfin, mes copines. Ouais. Je trouve, par exemple, qu'on a trop.
On achète trop, bien sûr. On possède trop. Moi, je suis dans le même
délire. Ça, c'est trop. On peut plus avoir autant de trucs. Ouais, c'est pas possible.
Ça n'a aucun sens.
Ça n'a pas de sens, exactement. On n'est qu'entouré d'objets qui n'ont pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les vêtements n'ont pas de sens, ils sont de mauvaise qualité, on les jette, on n'en peut plus, on les aime pas au bout de 2 secondes. Ça veut dire quoi ? Mais tout ça, c'est génial quand tu te mets à réfléchir à tout. Parce que ça fait un tout, en fait. Mmh. Moi, du coup, j'essaye de réduire les déchets parce qu'en fait, c'est beaucoup plus beau d'aller dans un endroit où il n'y a pas de... Le packaging, c'est dégueulasse. Mmh. C'est moche.
Non, mais...
Tout un placard, c'est moche.
Je viens de m'acheter une maison à la campagne et j'ai fait mes 3 poubelles. Genre le truc que j'avais toujours rêvé d'avoir. Une poubelle à compost, une poubelle à papier, c'est carton. Ça m'apporte un degré de satisfaction qui est difficile à décrire, en fait. Ouais, et pendant ce week-end, j'étais là genre, oh, un citron, ça va dans le compost. Ah, ça me mettait tellement
joie. Non, les agrumes ne vont pas dans le compost.
Oh putain, merde.
Ah non. En revanche, les agrumes vont dans le bocal à vinaigre blanc.
Moi, j'ai pas étudié encore assez.
Ouais, voilà, faut étudier, c'est pas grave. Mais ça va être génial. Votre vie va être géniale.
J'ai trop hâte.
Vous savez ou pas ?
Non, mais
votre vie va être géniale.
Je sens un truc qui pointe, qui a l'air pas mal.
Mais c'est énorme. La satisfaction d'être en contact avec des choses qui sont naturelles, moins dégueulasses, plus belles. Alors après, ça gueule. Moi, ma fille a gueulé au début et tout ça. Elle n'était pas contente. Parce que quand il n'y a plus de paquets de gâteaux sursucrés, ben, c'est pas sympa, quoi.
Ouais. Mais tout un travail.
Tout un travail.
Tout un travail.
Mais c'est franchement bon.
Ah mais j'adore, vous m'inspirez énormément, vous, avec tout ce que vous portez sur l'écologie et cette révolution-là dont vous parlez souvent en interview. Ça, je pense que c'est chouette d'entendre ce genre d'expérience. Je voulais lire le chapeau d'un portrait de vous, publié dans Libération en 2012. Mystérieuse à l'écran, comme dans la série Les Revenants, cette prometteuse actrice s'avère expansive et entraînante. C'est marrant d'être actrice parce qu'en fait, c'est comme si plus que toute autre femme, on vous envisageait toujours à 2 faces. La vraie, la fausse, à l'écran, à la ville. Et je crois que c'est une approche assez genrée parce que, par exemple, un comédien, on l'imagine plus comme un tout. Depardieu, c'est Depardieu.
C'est vrai.
Ça marche aussi pour Omar Sy, pour Romain Duris. Mais l'actrice, non. Elle est forcément un peu double. Elle est forcément un peu pernicieuse, en fait. Hein,
ouais.
Un peu ambiguë.
Ouais, c'est vrai.
Alors, quand ça se contredit, en plus, on se régale encore plus. Je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais, absolument. Et en plus, moi... En fait, je trouve qu'en tant que femme, on est beaucoup envoyé à ce truc de mystère, à ça qui, moi, m'a toujours fait chier profondément. Je veux dire, je déteste le mystère. Je me sens profondément pas quelqu'un de mystérieux. Je déteste le secret. Ça, tout ça m'ennuie profondément. Enfin, je trouve que ça n'a pas de sens de garder. Je trouve que garder des choses pour soi ou garder des... Ne pas partager même des expériences de vie. Qu'est-ce que vous faites, vous, profondément, dans l'écoute et dans le partage de... des connaissances, je trouve qu'on doit se dire des trucs, vraiment. La vie, c'est trop court, on doit apprendre des trucs, et puis tout s'apprend. Ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que... Bah, de toute façon, nous, franchement, les actrices... Mais je vois très bien pourquoi. Encore une fois, c'est ce truc de trophée dont on parlait tout à l'heure. On subit, mais... on s'est laissé subir, hein. C'est bien fait pour nous. Hein. Tout ça peut changer complètement. Parce que ça dépend aussi de comment on parle. Ça, maintenant, moi, là, je sors de... On a fait peut-être 3 semaines de promo. Franchement, j'ai... Je ne me suis jamais sentie aussi libre. Je trouve que c'est bon, stop.
Mais en interview, là, vous lâchez.
Ça va, quoi. Ouais. On n'a pas que ça à faire.
Ça fait du bien.
On n'a pas de temps à perdre.
Ça fait bouger les lignes, hein, de faire ça.
Mais je pense, moi, je pense. Ouais. Mais même sur les acteurs, les actrices, le statut mystérieux, iconique. Non, mais c'est vrai, quoi. On s'en fout. En vrai, on s'en fout. En vrai. Ça n'a pas de sens. Ça n'apporte rien à la société. Je veux dire, un acteur, c'est rien d'autre qu'un raconteur d'histoire. Ça n'a pas un statut privilégié. Et pourquoi nous, en tant qu'acteurs, on a plus de paroles que n'importe qui d'autre? Ça n'a pas de sens. Je veux dire, pourquoi un acteur a plus à apprendre qu'un chirurgien? Rien. Normalement, un acteur a... Donc, c'est du commerce. Donc, on vend des films parce que le cinéma est une industrie. C'est de ça dont il s'agit. Et après, en tant que faisant partie de l'industrie, la question, c'est qu'est-ce que tu vends? Bon, ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce que c'est ta carrière? Qu'est-ce que tu vends comme projet? Qu'est-ce que tu vends comme vision du monde? À quoi tu adhères? Qu'est-ce que tu soutiens?
Il y a une responsabilité aussi, du coup, sociale, qui vous incombe, mais que vous avez l'air d'avoir envie d'embrasser. Là, il y a une association que vous êtes en train de monter qui s'appelle ACT, c'est ça, avec d'autres comédiens et comédiennes?
Ouais. J'espère que je vais arriver à faire ça. Mais ouais, l'idée, c'est de... Avec les off, parce qu'aussi, c'est un métier très luxueux, dans le sens où on n'est que avec des êtres humains qui sont la plupart du temps géniaux, généreux, drôles. Mes camarades acteurs, c'est vraiment des gens que j'admire profondément. Par exemple, moi, pour l'instant, je m'accorde pas tellement ça, mais je suis très admirative de gens qui arrivent à se réaliser pleinement et qui arrivent à s'offrir pleinement à eux-mêmes et aux autres. C'est-à-dire quelqu'un qui est une star, qui a un statut de notoriété très grand. C'est quelqu'un qui a accédé pour moi à une très grande liberté. Quand je vois un type comme Jamel, par exemple, je me dis, OK, le gars a des leçons de liberté à nous donner tous. Et ce qui est beau, c'est que ces autorisations-là, que ces gens-là se sont données, je veux dire, homme comme femme, hein, acteur comme actrice, quand je vois Valérie Le Mercier, c'est pareil, quand je vois Marina Foïs, c'est pareil, quand je vois Marion Cotillard, c'est pareil. Des gens qui sont des stars, des étoiles, c'est des gens qui n'ont pas eu peur de leur lumière, pas eu peur de leur puissance, pas eu peur de leur force, pas eu peur d'écraser qui que ce soit, pas eu peur de rayonner. Et je trouve que dans la vie, c'est parmi les choses les plus exemplaires, belles. Donc tout ça pour dire que ACT, c'est l'idée que tous ces gens-là donnent des off, font le don de trucs qui sont off en plus, drôles, que les gens regardent sur un réseau social et que nous, on monte une régie publicitaire. Donc on utilise le système. Et pas, on ne demande pas de l'argent aux gens, pour reverser de l'argent à des associations. Donc on est dans un truc hors production, mais on se sert de ce talent-là en or, quoi.
C'est hyper... ça se tient carrément, c'est hyper malin. Je trouve ça chouette, j'espère que ça va...
Moi aussi, j'espère que ça va marcher.
On parle de théâtre un petit peu. Je voulais qu'on parle de Molly Bloom, une pièce que vous avez jouée, c'était en 2013, si je ne me trompe pas. Ouais. En fait, Molly Bloom, c'est un chapitre d'Ulysse de James Joyce, hein, le livre que tout le monde possède mais que personne n'a lu. Un monologue de 8 phrases, de 5000 signes chacune. Vous êtes seule en scène pendant 2h30, dans une boîte qui tourne sur elle-même, qui vous oblige à vous contorsionner tout en disant un texte extrêmement difficile. Il y a pas mal de vidéos sur Internet, donc j'ai vraiment passé des heures à vous regarder, complètement fascinée à faire cet exercice-là. Finalement, ce qui me venait à l'esprit comme mot, c'est le mot performance. Mmh. Performance, même au sens sportif, au sens corporel du terme. Mmh. C'est un mot qui parle bien de votre métier aussi.
Oui, carrément. C'est aussi un exercice physique. L'outil, c'est le corps. Et en ça, je trouve que c'est pareil. Comme on doit explorer la vie matérielle, on doit explorer la vie intérieure, qui n'est que le prolongement après de l'extérieur et tout ça. Donc, ça, c'est pareil. C'est un chemin qui s'ouvre à moi, que je commence à défricher, mais qui me passionne, mais que je suis au début d'explorer, quoi. Mais c'est assez passionnant, franchement. Le corps, c'est fascinant. Je trouve d'ailleurs que ça me sidère à quel point on n'apprend pas, on nous apprend pas comment on fonctionne. Par exemple, c'est comme si tu avais une voiture et disais, bah, essaye de mettre de l'herbe dedans pour voir. Je sais pas, c'est tellement bizarre, je comprends pas. Moi, franchement, il y a plein de trucs que je comprends plus maintenant. Pourquoi on dit pas comment ça marche un corps? Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qui va pas? Moi, j'ai appris des trucs en étudiant un peu, mais c'est le degré d'études qu'il faut faire pour comprendre un minimum que, en fait, nos boyaux sont préhistoriques, donc ils ne reconnaissent que le cru. Donc c'est pour ça qu'on mange des crudités avant le repas, parce qu'en fait, le cru, le corps comprend qu'il est en train de manger, parce que le cuit, il ne connaît pas, en fait, parce qu'il est resté au paléolithique, le truc. Donc voilà, donc tu préviens ton organisme que tu es en train de manger. Sinon, il croit que c'est une attaque. Donc, c'est pour ça que tu es fatigué après quand tu as mangé. Parce que ton corps te dit, ok, stop, là, j'ai besoin d'étudier ce qui est en train de se passer. Peut-être que c'est une maladie, ok. Donc, tu vas dormir.
La sieste, moi, donc.
Voilà, tu vas faire la sieste et moi, je vais travailler, je vais voir si c'est bien, pas bien, je vais réfléchir. C'est hallucinant. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est passionnant, le corps.
Et alors, l'utérus, comment vous entendez avec le vôtre?
Alors, hyper bien. J'adore mon utérus. J'ai une grande reconnaissance pour cet organe qui d'ailleurs est occupé en ce moment.
Mais j'adore cette information.
Oui, si je pouvais lui faire des cadeaux, je lui en ferais. Et en vrai, j'ai entamé un grand dialogue avec lui l'année dernière parce que j'ai fait une fausse couche. Et c'était assez sidérant comme expérience. Pour que je commence à m'interroger sur cet organe, que jusque-là, ça a été un peu comme tous les autres trucs de mon corps. Tous les trucs qui marchent, de toute façon, tu fais jamais attention. Donc c'est un peu... On a un peu des ingrats, quand même. Ça marche, c'est comme les poumons, c'est comme notre visage, nos yeux, c'est comme tout, en fait. Hein. On devrait on devrait dire gratitude à tout notre corps, tout le temps. Et au lieu de ça, on s'en fout, mais bon. Ce dialogue avec mon utérus n'a pas commencé à ce moment-là. Ce dialogue a commencé avec mon utérus quand j'ai fait cette fausse couche et j'ai un peu mis ça sous le tapis en me disant c'est bon, ok, moi j'ai autre chose à faire que d'être triste, ça va. J'ai décidé de ne pas me traumatiser avec cette histoire. Donc j'ai mis un peu la tristesse sous le tapis et après mon corps s'est arrêté, c'est-à-dire que je n'avais plus mes règles et tout ça. Et donc en fait, l'utérus lui-même a dit ah bon, il ne s'est rien passé. Bon, bah très bien, bah il se passera rien alors. Donc le truc s'est arrêté. J'ai paniqué. Je commence à paniquer, pas tout de suite évidemment. Hein. Il a fallu quelques mois de sidération pour que je me dise mais. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Que j'aille lui parler donc à cet utérus, voir ce qu'il avait, voir ce qui s'était passé et comment ça pouvait aller mieux. Et à partir de là, je me suis dit que quand même vraiment, fallait pas prendre le corps pour un con, et que fallait donc faire assez attention, hein, pas trop mettre des trucs sous le tapis, parce que finalement ça revient, hein, c'est pas un tapis, c'est donc pas un tapis, c'est donc autre chose, c'est donc une matière vivante, sensible et sublime, carrément.
Donc le dialogue a lieu, c'est magnifique.
Ouais, carrément. Et un jour j'ai raconté ça à une amie j'ai raconté qu'un jour j'ai littéralement parlé à mon utérus et comme je lui ai parlé en anglais elle m'a dit donc ton utérus est anglophone et j'ai dit oui sûrement peut-être que mon utérus est anglophone, je ne sais pas, mais
j'adore cette idée.
Voilà.
Je voulais rappeler tout à l'heure, vous avez tourné sous la caméra de très peu de femmes. Il y en a trois, en fait, hein, dans votre carrière, dans votre cinématographie. Mmh. On dit ça? Mmh. Oui. Filmographie.
Bah, plus plutôt. Ces derniers temps, mais je pense que c'est lié
À la sous-représentation aussi des femmes parmi les réalisatrices.
Absolument.
Et les réalisateurs.
Hein, et c'est lié, je pense, à l'époque qui change. Hein. Peut-être que je vais de plus en plus tourner avec des femmes.
Bah, on l'espère.
Alors, vous avez lesquelles alors?
Alors, moi, j'ai Valeria Bruni Tedeschi, ouais, pour Un château en Italie. Ouais. J'ai Uni Lecomte. Ouais. Dans Je vous souhaite d'être follement aimé, et puis Audrey Diwan pour Mais vous êtes fou. La question un peu essentialiste que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ça change d'être dirigé par une femme quand on est comédienne?
Qu'est-ce que ça change? Ça change autant que d'être dirigé par un autre homme, j'ai envie de dire, parce que chaque réalisateur est une entité, un monde, une force, une poésie. Chaque réalisateur, chaque visionnaire est un monde, mais comme nous tous, on est tous des mondes en fait. Hein. Et donc, ça change.
Ça libère pas de quelque chose que le regard posé sur vous soit un regard féminin?
Ça change par exemple d'être dirigée par Valéria, parce que Valéria c'est une actrice, donc ça, ça change. Ça change beaucoup plus que Valéria soit une actrice. Ce qui change, c'est qu'elle soit actrice, donc elle sait profondément de quand elle dirige les acteurs. Ça, ça, ça change. Le fait que ce soit une femme, ça change. Moi, je trouve que ça change évidemment le film dans sa globalité. C'est une autre vision du monde qui est proposée. Ouni, c'est encore autre chose. Parce qu'elle était accompagnée d'une chef opératrice et que, au fond, ça a été assez difficile pour moi de travailler avec elle. Mais donc, ça n'a rien à voir avec le fait que. Voilà. Et ensuite.
Audrey Diwan.
Audrey, mais par exemple, Cathy Vernet, juste avant, qui a réalisé la série.
Cathy Vernet, bien sûr, qui a réalisé Vernon Subutex, ouais. J'avais oublié.
Et Audrey, c'est autant, par exemple, une amie que. Une réalisatrice pour moi ou une femme, je sais pas comment dire. Donc ça a changé, bien ça. Et ça a changé parce que le degré d'intimité qu'on avait était puissant, parce que on avait un accès l'une à l'autre assez puissant. Mais je pense que c'est plus lié au fait que ce soit une amie par exemple qu'une femme. Et ça est aussi oui parce qu'elle avait des accès à des pans de ma vie. Enfin voilà, je sais pas comment dire. Donc c'est notre résonance, notre façon de fonctionner ou de communiquer était différente. Qu'avec un homme, évidemment, mais qu'avec un autre, une autre personne en général. Mais je comprends ce que vous voulez dire, parce que, évidemment, d'abord, de plus en plus de femmes s'autorisent, et c'est ça qu'on va voir arriver, c'est ça qui est magnifique. Et moi, ce que j'ai envie de dire avec ça, avec toutes ces questions féministes qui me préoccupent fondamentalement, je suis tellement inspirée par vous, votre travail. Tellement heureuse d'entendre toutes les femmes qu'on entend à votre micro. Je trouve ça tellement sublime de votre part d'accorder cette écoute à des femmes, de créer, d'avoir créé cet espace de parole, de l'avoir rendu matériel, palpable, communicable à grande échelle. C'est absolument fabuleux ce à quoi vous nous donnez accès. Moi, je suis émerveillée d'entendre vos émissions.
Merci tellement.
Mais non, c'est vrai.
C'est tellement gentil de me dire ça.
Mais non, mais c'est vrai. Je trouve que vous participez tellement à tout ce mouvement qui est à nous, en nous, et qui est aussi un mouvement global de la société. Et moi, je pense que de plus en plus, ça se voit. Ça se voit que ça n'est pas juste, ça se voit que ça n'a pas de sens. Ça se voit que la parole des femmes est lumineuse, nécessaire, vitale. Ça se voit qu'elles peuvent agir sur le monde d'une toute autre façon que tout ce qui a été créé jusque-là, des hommes et des femmes qui l'ont entretenu, ce bien système
sûr,
aussi.
Évidemment.
Je veux dire, évidemment, nous, les hommes qui sont issus de ces mères-là, c'est aussi, par exemple, moi, mon grand-père, qui est un homme assez tyrannique, est issu d'une mère qui l'a divinisé et qui était totalement désintéressée aux femmes. Ma grand-mère... on s'est désintéressé d'elle parce que c'était une femme. Et donc, tout, on vient de là. Mais c'est en train de changer parce que nous sommes en train de changer, nous, la source. Et qu'on n'élèvera plus nos fils comme elles élevaient leurs fils.
Clairement, ni nos filles.
D'ailleurs. Ni nos filles. Et que nous-mêmes, on est en train de se transformer pour rayonner, être forte, être à notre hauteur. Et pas s'enlever des pans de vie. Mais je pense que les hommes ont le même trajet à faire. Je pense que les hommes ont été enlevés de pans entiers de leur sensibilité, de leur douceur, de leur non-ambition, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir de l'ambition, en fait. Ce qui est beau dans la vie, c'est de s'accomplir, mais qu'est-ce que ça veut dire, s'accomplir ? Si pour un homme, être une fenêtre pour un enfant, c'est s'accomplir, par exemple. Qu'est-ce que ça fait ? Et pourquoi on enlèverait ça à un homme ?
Mais il y a un travail de déconstruction énorme à faire. Et quand vous parlez de ces lignes qui bougent, moi, ça me fait forcément penser au collectif 50-50 en 2020.
Ouais, bien sûr.
Donc, collectif qui lutte pour une meilleure présence des femmes dans les métiers du cinéma, que vous avez soutenu. Il y a beaucoup de vos amis, de vos proches qui sont un peu en tête de file de ce mouvement. Vous êtes optimiste pour que les choses changent vraiment dans le cinéma, en tout cas ?
Ben, elles sont en train de changer fondamentalement. Moi, en vrai, je suis très, très optimiste. Très optimiste, parce que il n'y a pas de retour en arrière possible. c'est ça qui est bon avec, avec la vérité de ça, avec l'évidence de ça. Avec la... C'est incontestable. C'est Nouskine qui disait, tiens, les acteurs peuvent jouer le même rôle, s'entraîner sur le même rôle. Il y a un moment où l'acteur et le rôle, qui sont évidents l'un avec l'autre, c'est comme ça. C'est, ça n'est pas contestable, ça n'est pas empêchable. Et encore une fois, ça vient aussi avec les autorisations qu'on se donne. Et avec les libertés qu'on, se, qu'on s'accorde. Ces femmes qui ont libéré la parole nous ont libérées. Et donc, en nous libérant, elles ont fait beaucoup. Et nous, on doit, à leur suite, continuer de libérer d'autres zones, de défricher d'autres espaces. Parce qu'il y a plein de zones de la société qui sont encore emprisonnées. Je ne parle pas que des femmes et des hommes. Je parle de choses qui sont sclérosées, comme du rapport à l'âge, comme du rapport au vieillissement, et c'est, au poison, de, à tout, 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 à l'empoisonnement dans lequel on est. Par exemple, on n'a plus de rapport avec le... ni même le sacré. Avec, enfin, je veux dire, il y a plein de zones de notre culture qui a coupé, on a coupé, on a coupé des choses. Et il faut re... semer, refaire planter. Refaire planter, ça n'existe pas.
Refaire pousser.
Ouais, refaire pousser.
Avec un bon compost maison.
Avec un bon compost.
Sans agrumes.
Sans agrumes.
Punaise, les agrumes, là.
Les agrumes dans le vinaigre blanc, comme ça, hyper fumé, hop, après.
Ah, j'adore l'idée. Mm. Céline Salette, est-ce oui. que vous avez accès à votre chambre à vous?
Eh ben, de plus en plus. Mais c'était pas gagné, hein. C'était pas gagné. Mais en vrai, c'est pas vrai, parce que quand j'étais petite, je trouve que quand on est petit, on a vraiment sa chambre à soi. On a vraiment son monde et tout.
On la perd après.
Mais ouais, c'est ça. On perd le truc, mais en vrai, on l'a tous, quoi. Et la chambre, c'est bien. C'est une bonne image, la chambre. Mais c'est pas suffisant. Parce que l'idée de la chambre à soi, c'est bien, mais pff, c'est chiant, quoi. Je trouve que pour s'accomplir, ça passe forcément par partager. Mmh. À ouvrir à d'autres et tout ça. Il faut aussi sortir de sa chambre.
Non, mais c'est hyper intéressant. Mais d'ailleurs, la phrase originale de Virginia Woolf, c'est « room of one's own ». Et c'est la traduction française où on a dit « chambre », alors qu'en fait, elle dit une pièce. Elle ne parle pas forcément de chambre à coucher. Donc, il y a encore du sexisme dans cette expression.
Hey. Oh, merci, Lorraine.
C'est fatigant.
Vous ne savez pas.
ça évoque quoi pour vous, la poudre?
La poudre... Alors, je n'ai donc pas réfléchi à cette question avant de venir, et pourtant je savais que vous alliez la poser. Qu'est-ce que ça évoque? Bon, ça évoque vous. Non, c'est vrai. Quand je pense que je vais écouter la poudre, je suis trop contente.
Oh, c'est trop sympa, ça me fait tellement plaisir.
Non, c'est vrai.
Mais je suis hyper honorée en tout cas que vous y soyez aujourd'hui.
Non, bah, c'est moi vraiment. À la suite de toutes ces femmes que j'ai entendu, que je trouve de grandes intellectuelles, de grandes femmes de parcours. Ouais, je trouve que c'est un honneur de venir parler ici de, des femmes, de la vie et de comment on peut grandir.
Merci du fond du cœur.
Merci à vous. Merci, merci beaucoup.
Merci à Céline Salette d'être venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son, Gaïa Marty. À la programmation, Laura Cuissard. Et au mixage, Marion Emery. Le générique est une variation sur la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission? Je vous aime aussi. Alors s'il vous plaît, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide La Poudre à essaimer. Pour faire parler La Poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram @lapoudretv, sur Twitter @lapoudrene et sur Facebook sur la page La Poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquer sur La Poudre. Cela vous permettra de découvrir Mortel, Queer, Primo, Quad Meuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, la poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur le site La Poudre Lit, où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. À très vite et continuez de faire parler la poudre. Cet épisode de La Poudre a été enregistré à l'hôtel de Berry dans le 8e à Paris. J'aime leurs chambres spacieuses et lumineuses aux murs couverts d'œuvres d'art inspirantes. Et ce calme, si vous l'entendiez, vous n'auriez comme moi jamais envie de quitter l'atmosphère apaisante de ce lieu. Merci à l'hôtel de Berry d'offrir cet écrin à la poudre.